voulons vous souhaiter la bienvenue ce matin à cette toute nouvelle série de messages « Suivre Jésus pendant les prochains mois ». On est extrêmement enthousiaste, excité de vous annoncer cette série parce que nous allons suivre, traverser les évangiles et nous allons suivre Jésus jusqu'à Pâques. On va le suivre dans chaque étape des évangiles jusqu'à Pâques, jusqu'au dimanche de la résurrection. On vous souhaite la bienvenue ici à Longueuil, à ceux qui nous suivent sur Facebook Live, en ligne, en streaming et aussi en 2019, en multisite. Il y a plusieurs églises qui désirent se joindre à nous en multisite. Implantation et des églises qui désirent se joindre. Alors, en 2019, nous allons être, on va vous annoncer les différentes localités à mesure que l'année se développe en multisite. Nous allons regarder ce matin et ce soir, les deux prochains messages, au tout début, au commencement, suivre Jésus à partir de l'évangile de Marc, au premier chapitre. Tournez avec moi à Marc, chapitre 1, qui commence avec les mots « commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui prépare ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Nous commençons l'année dans la prière, nous commençons l'année à suivre Jésus, ici à l'église avec des réunions spéciales, mais aussi, et je le mentionne pour tous ceux qui suivent en Facebook Live, demain matin, vous allez avoir sur notre site, va être en ligne, notre défi 10-30 2019, alors que vous allez avoir 10 capsules, 10 coachings pour les 10 prochains jours. On veut vous défier à prendre un 30 minutes par jour dans la présence de Dieu pendant 10 jours, le défi 10, 30, et afin de vous aider, il y a le site, sur notre site, c'est toute l'équipe pastorale de Nouvelle Vie qui va suivre Jésus, des coachings de prière, suivre Jésus, différentes prières de Jésus dans les évangiles, ça va être en ligne demain, et aussi, il y a déjà 4 ou 5 autres coachings de 10 jours, alors vous en avez pour les prochaines semaines ensemble en ligne, c'est magnifique, on reçoit toujours plein de courriels, alors il y a plein de gens, c'est une espèce de grande réunion de prière virtuelle. Non seulement les 4000 et plus personnes de Nouvelle Vie, mais des dizaines de milliers qui vont prier les mêmes prières ensemble, parce que nous voulons, la vision de cette série, c'est d'être une voix qui vous trace le chemin, une voix qui appelle et qui dit « voici le chemin du Seigneur, voici comment suivre le Seigneur Jésus ». Cette pensée de « soit une voix » et non un écho seulement, qui fait juste répéter ce qu'il a entendu, soit une voix et non un écho, et quelque chose que le Seigneur avait déposé dans mon cœur dans les tout débuts, même avant l'Église de Nouvelle Vie. Depuis plus de 25 ans, nous cherchons, nous disons, Seigneur, nous voulons être une voix pour toi, pas juste être un écho de ce que l'Église a été jusqu'à maintenant, de ce que suivre Jésus représente. Nous voulons être une voix qui trace un chemin clair. Chaque personne entrant dans un chemin, que ça fasse, que vous soyez ici pour la première fois, ou que ça fasse des années que vous suivez Jésus, qui a un esprit de révélation pendant tous ces prochains mois. Cette semaine, c'était, au moment où on présente ce message, cette semaine, c'était une journée de commémoration pour Martin Luther King aux États-Unis. Et comme à chaque année, j'ai regardé différents reportages, et c'est assez saisissant de voir comment la vie entière, toute l'œuvre entière de cet homme a été réduite, souvent réduite à quelques phrases. Si je dis Martin Luther King, quelqu'un dit « I have a dream » ou deux ou trois phrases, et des gens qui n'ont aucune idée même de ce que sa vie a représenté, qui citent ça, de tous les côtés, et j'étais assez saisi et choqué de voir sur Internet, il y avait une convention de chrétienne, je le dis malheureusement, convention qui était de chrétiens, mais de chrétiens dans le message de l'hyper-prospérité, très, très matérialiste, une convention de chrétiens blancs dans un quartier affluent parle pour eux, voit la foi comme un moyen de s'enrichir les communicateurs se vantaient de leur jet, leur maison de luxe, leur Rolls Royce, leur Bentley, leur bagnole et tout ça. Et c'était tout un élément de matérialisme qui est tellement loin des évangiles. Mais ce qui était hallucinant, c'est que le thème de leur convention, c'était « I have a dream ». Prenez les paroles de Martin Luther King, complètement dénaturé, à la limite complètement contraire. Et alors que je regardais ça, j'étais comme choqué. Bah, comment est-ce qu'on peut réduire les paroles et toute la vie de cet homme-là, de combattre la ségrégation, de combattre toute la discrimination, puis d'essayer d'amener ça. Et la pensée était déposée dans mon cœur. J'étais en jeûne et prière pour ce début d'année, comme si le Seigneur disait, encore plus grave, c'est les chrétiens qui prennent, et l'Église qui m'a réduit à quelques phrases ici et là, quelques phrases de moi ici et là. sans qui me vole. Un petit peu comme, tu as déjà vu une espèce de marionnette ou de poupée que tu tires sur une corde puis il cite deux, trois phrases. Il y a plein de chrétiens que c'est seulement leur mesure, leur dimension, leur perspective, leur compréhension de ce que ça veut dire de suivre Jésus a été tellement volé, a été tellement atrophié, a été tellement diminué. Je déclare par la foi au nom de Jésus, je déclare prophétiquement dans ces prochains mois, nous ne serons pas juste un écho de la vision limitée de suivre Jésus qui nous a environnés et parfois étouffés. Par la grâce de Dieu, une voie va tracer un chemin et nous allons entrer dans l'abondance, dans l'autorité, dans la puissance, dans l'onction, dans la libération, dites Amen, dans la joie, dans la paix de suivre Jésus. Quelqu'un devrait dire Amen et applaudir ce que Dieu va faire. Parce qu'il est littéralement possible, il y a un avertissement divin, qu'il est littéralement possible d'avoir une apparence de piété, juste quelques phrases, quelques clichés sur Jésus, mais de renier ce qui en fait la force. C'est ce que Paul a annoncé à Timothée, c'est un avertissement prophétique dans 2 Timothée. Sache que dans les derniers temps, puis on reconnaît nos sociétés modernes, il va y avoir des temps difficiles. Les hommes seront, puis il y a toute une liste, ils vont être, c'est comme si on lisait une description de notre société moderne, non seulement à l'extérieur de l'Église, mais à l'intérieur. Ils vont être égoïstes, ils vont être matérialistes, ils vont être arrogants, hautains, ils vont être blasphémateurs, rebelles, ils vont être en guerre avec leurs parents, ils vont être insensibles, ils vont être calomniateurs ou diffamateurs et ingrats, enfler leur cœur. Il va dire même, mais ça s'applique pas à les gens de l'extérieur. Ça s'applique à des gens qui ont un témoignage comme marchant avec Dieu. Ils sont rebelles à Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils aiment leur plaisir plus que Dieu. Ils ont une apparence de piété. Personne à l'extérieur prétend ça. Ils ont une apparence de piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Il dit « Suive Jésus », mais Jésus lui-même a averti. Jésus a lui-même dit dans Matthieu 7, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous, dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? » Mais moi, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pas tous. Jésus décrit dans les temps de la fin un peuple qui va dire Seigneur, Seigneur, mais ils ne l'ont pas suivi. Ils ont confessé le surnaturel, mais ils ne connaissaient pas la sanctification. Ils ont cru, mais ils n'ont pas changé. Ils ont parlé pour Dieu, parfois parlaient de Dieu, témoignaient de Dieu, sans sa pureté, sans sa parole. Ils ont vu Dieu agir, mais ils n'avaient pas, ils ont vu Dieu agir, mais ils n'avaient pas de vie en Dieu. Ils ne faisaient pas sa volonté. Ils sont ouverts à Jésus, mais ils n'obéissent pas à Jésus. Ils ont peut-être même servi dans l'Église, mais ils n'ont pas suivi. Ils sont actifs pour lui, mais ils ne sont pas attachés à lui. Et en ce début d'année, nous allons regarder dans ces prochains mois ce que j'appelle suivre Jésus en 4D, en quatre dimensions. Nous allons suivre Jésus, découvrir, définir, développer et devenir. On va découvrir ensemble, on va annoncer, on va prononcer, on va énoncer et on va même dénoncer. Parce que lorsqu'on proclame, c'est quoi? Suivre Jésus, nous sommes appelés à consoler les affligés et à affliger les confortables. Nous sommes appelés à annoncer, à découvrir, définir, développer et devenir. Ensemble, devenir ce que Dieu voulait que nous soyons. Développer ce que signifie suivre Jésus réellement. Et ce matin, ce soir, nous allons être dans le premier chapitre, au commencement, dans l'évangile de Marc. Marc ne commence pas son évangile avec la naissance de Jésus, pas le commencement de la vie de Jésus, c'est le commencement du ministère de Jésus. Comme si Marc refusait sous l'inspiration de l'Esprit de limiter Jésus au folklore de Noël, au folklore de la crèche, au folklore de l'enfant Jésus. Il le déclare comme Seigneur et Fils de Dieu. C'est le premier évangile, c'est le plus ancien, et Marc a recueilli selon le témoignage oculaire de l'apôtre Pierre et inspiré de l'Esprit a écrit cet évangile qui est le plus court, mais très, très dynamique. Il y a des portraits saisissants. C'est un évangile en action. Je vous encourage, pendant le mois de janvier, vous pouvez lire à quelques minutes par jour, vous pouvez traverser l'évangile de Marc. C'est continuellement en mouvement. C'est des portraits. Il n'y a pas tous les détails. Les autres évangiles apportent des détails. Mais c'est des portraits parce que le premier niveau de proclamation, c'est la démonstration. Il dit, ben, il n'a pas dit, voici ce que Jésus est, voici, il le montre. Et rappelez-vous de ça dans votre propre vie. Peu importe à quel point vous parlez, le premier niveau primal, principal, vraiment, de proclamation, c'est la démonstration de ce que Jésus a fait dans votre vie. Vous êtes des épîtres vivants, lus partout. Les hommes, les gens vont se faire une opinion sur l'authenticité, la valeur de votre christianisme selon votre vie et comment vous suivez Jésus. Peut vous dire amen. Et Marc est un le commencement de l'évangile de Marc, c'est extrêmement rapide. Il y a un pace, il y a un rythme effréné à Marc. Vous l'avez remarqué, on va les lire, on va même le lire ce matin. Mais plusieurs fois dans l'évangile de Marc, les quatre mots souvent utilisés à profusion, immédiatement, soudainement, après, aussitôt, voici comment. Alors il y a cette ouverture et on ouvre ce matin, on va lire seulement trois versets et découvrir ensemble les premières étapes de marcher avec Jésus, de suivre Jésus dans Marc chapitre 1 et le verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux avec ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » On va regarder ensemble ce matin et ce soir les deux prochains messages. Il faut que vous soyez là cet après-midi. Ils se complètent, c'est incomplet si vous venez seulement ce matin. Mais on va voir ensemble comment suivre Jésus, c'est le suivre dans une conviction, dans une compréhension de son cœur qui change tout. Ce soir, on va voir ensemble, c'est le suivre dans le chemin de la paix et le suivre. Suivre Jésus, on va être dans Marc 1, verset suivant. Suivre Jésus, c'est aussi le suivre dans le chemin de la paix, mais le suivre dans une confrontation avec les ténèbres, avec le satanique et un combat. Ce soir, on va faire du combat spirituel ensemble parce qu'il est le Christ, mais il confronte. Il est le sauveur qui combat contre le satanique. Il est l'agneau, mais il est aussi le lion. Il est un berger qui se bat. Bannissez de vos pensées la version limitée de Jésus qui est juste comme un berger avec une petite brebis blanche sur l'épaule, puis tout est un petit peu sirupeux, un petit peu... Non, non. Jésus est venu pour confronter et vaincre. Jésus est venu renverser les ténèbres. Il a vaincu les ténèbres, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu la mort, il a vaincu les captivités, il faut pas applaudir celui qui est vainqueur. Il a vaincu la honte, il a vaincu nos fautes, il est venu vaincre. Même la mort, tout ce qui peut être mort à nous, il est venu vaincre la mort. Jésus a été mis dans un tombeau emprunté. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas pour rester là longtemps. J'aime la notion que Jésus est venu et plein de gens, même chrétiens, ont perdu la notion que suivre Jésus, c'est comprendre qu'il est venu, mais qu'il va revenir. Qu'il est venu et qu'il va revenir. Cette semaine, c'était, mon épouse et moi, notre 32e anniversaire de mariage. 32 ans, moi et mon épouse ensemble. Applaudissez cette femme, une sainte femme. 32 ans et jeûne pendant 4 jours, un souper, puis après ça, on revient au jeûne, puis on essaye de tout faire en même temps, anniversaire de mariage, jeûne et tout ça. Et j'étais assis, et parfois, moi, ça m'arrive d'être dans un endroit très, un moment restaurant, un moment très, mais d'être dans mes messages, dans ma tête, etc. Puis au milieu du souper, on avait des napkins, puis au milieu du souper, je me suis levé, excusez, pour aller à la salle de bain, puis on disait, tu t'en vas, non, je vais revenir, puis j'ai plié ma napkin, et puis j'étais en route vers la salle de bain le soir de mon 32e anniversaire, puis j'avais une pensée pour ma prédication de ce matin. J'avais ma napkin et j'ai eu la pensée, parce que la Bible nous dit que le matin de la résurrection, Jésus a plié le linge sur le bord du tombeau. Savez-vous pourquoi? Il a plié le linge. On plie le linge lorsqu'on sait qu'on va revenir. J'ai plié le linge parce que, attends une minute, je m'en vais pas, je quitte pas, je reviens et je reviens. J'aimerais vous dire que Jésus est le vainqueur. Suivre Jésus, c'est comprendre qu'il a plié le linge parce qu'il est venu, il est ressuscité et il va revenir. Et entre la première venue et la deuxième venue, il donne une autorité à son Église d'être son corps, d'être l'expression de son autorité, de son amour et de qui il est sur la terre. Voulez-vous applaudir celui qui est venu et qui va revenir? Suivre Jésus, c'est le suivre avec une conviction. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Nazareth, pas Jérusalem, pas la ville spirituelle, pas la ville significative, non. Il vient de Nazareth. Il vient d'un coin perdu, oublié. Les commentaires bibliques et les historiens confirment quelques centaines de personnes, un village pauvre, sans signification, un village qui était déchu, sans promesse, sans influence, sans impact. Le Fils de Dieu et le Sauveur du monde est venu dans un endroit et d'un endroit complètement inattendu. Avez-vous réalisé que suivre Jésus, c'est croire que ce qui est, c'est avoir la conviction que ce qui est grand vient souvent de ce qui nous semble petit. Que les grands accomplissements commencent dans des lieux d'obscurité. Pendant 30 ans, Jésus dans l'obscurité. Que la fidélité dans l'obscurité, lorsque personne ne te voit, va produire la faveur et l'onction. Il vient de Nazareth. Le Fils de Dieu, le Messie, il vient de Nazareth. C'était tellement un coin perdu que les gens avaient développé un dicton. Il y avait un dicton en Israël où les gens, puis on le retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 45-46, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi, de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit, c'est ça le dicton, tout le monde le connaissait. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » Et Philippe lui répondit, « Viens et vois. » C'est comme Pasteur Claude le dimanche matin qui prêche, « Jésus est Seigneur, il est l'accomplissement de toutes les prophéties, il est le Fils de Dieu. » Mais il y a plein de Nathanaël dans la salle, dans votre cœur. Vous m'écoutez, vous êtes en même, vous avez peut-être même applaudi, mais il y a plein de Nathanaël dans la salle, quelque chose qui brûle dans votre cœur en ce moment, quelque chose en vous, il y a quelque chose qui dit, « Ouais, ouais, il est le Fils de Dieu, mais tu sais pas le Nazareth que j'ai vécu. Y a-tu vraiment quelque chose de bon qui peut sortir de la situation dans laquelle je suis? Y a-tu quelque chose de bon qui peut sortir de ce désastre? Y'a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de cette peine? Y'a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de cette saison de désert, cette saison de maladie? Y'a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de ce qui se passe dans ma famille, de ce qui se passe dans mon mariage? Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui peut se passer, qui peut sortir du passé duquel je viens? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bon? Oui, oui, Jésus Seigneur, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui peut sortir de ce que je traverse en ce moment, de ce que ma famille est devenue, de ce que ma réalité est, de ce que mon passé est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui peut sortir du deuil, ou de la maladie, ou de l'épreuve, ou de l'échec, ou du délai? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bon? Et suivre Jésus, c'est marcher avec la conviction devant Dieu, qu'il est celui qui, de Nazareth, de l'inattendu, de l'impossible, du petit, fait émerger sa gloire, son témoignage, et les grandes choses que lui a préparées. Vous devriez, amen, vous venez applaudir pour votre Nazareth. La conviction, ce n'est pas d'où tu viens qui compte, c'est ce que tu deviens. Ah, c'était bon ça, j'ai passé des heures là-dessus, je me suis creusé le cerveau et puis j'avais des mal de tête à sortir ça. Vous n'avez pas dit amen. Alors je vais le dire une autre fois parce que ça vous a pris par surprise. Ce n'est pas d'où tu viens, c'est ce que tu deviens. Ce n'est pas, allez-y. Dites-le à votre avec moi. Ce n'est pas d'où tu viens, c'est ce que tu deviens. Ce n'est pas d'où tu sors, c'est qui tu suis. Dire amen. C'est pas d'où tu viens. De Nazareth. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de ce que je traverse, de ce que j'ai vécu, même de mes échecs, de mes peines, de mes erreurs, de mes dépendances qui reviennent, de mes... Oui, le suivre donne... c'est le suivre avec cette conviction. Et voici comment les Nazareth deviennent des témoignages de sa gloire. Voici comment les Nazareth sont transformés en témoignages. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance. Marc chapitre 1 verset 4. La repentance pour la rémission des péchés. Peut-il venir quelque chose de bon d'un endroit de ce que je vis, de l'horreur de ce que je traverse en ce moment? Oui, suivre Jésus, c'est la conviction qu'il n'y a pas de limite en Christ. Il n'y a pas de limite par la repentance et la résurrection. Que si tu es prêt à changer, repentance, c'est changer de direction, c'est changer de façon de penser, c'est changer tes actions. Si je suis prêt à venir devant lui avec repentance, mais aussi par la puissance de la résurrection, parce que Jean, dans l'Évangile de Marc, annonce les deux, Jean-Baptiste annonce les deux. Il annonçait la repentance. Il n'y a pas de résurrection et de changement, les Nazareth demeurent des Nazareth. d'impossibilités et de déceptions et de cycles de captivité qui ne, et le passé reste le passé et continue à te tourmenter aujourd'hui si tu n'es pas dans un mode, si tu n'acceptes pas de marcher avec repentance, pas seulement pour venir à Jésus la première fois, mais un mode de vie où, Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, je viens encore à toi, je te présente, mais non seulement la repentance. Parce que, manquez pas ceci, les deux éléments. Il dit, il est venu pour la repentance et la rémission des péchés. Il prêchait en disant, il vient, voici la suite, versets 7 et 8 de Marc 1. Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant les courroies de ses souliers. Mais je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera, baptise d'eau. Il te remplira du Saint-Esprit. De l'esprit de puissance, de l'esprit du même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Jean-Baptiste comprenait la conviction, suivre Jésus, c'est la conviction que sans repentance, il n'y a pas de résurrection. Tu peux entendre parler de la résurrection, elle est arrivée, elle est réelle, mais ton cœur, Dieu ne viole jamais la volonté de quelqu'un. Mais si ton cœur ne vient pas avec repentance, tu peux t'entourer de résurrection et toi, tu restes dans le Nazareth de l'impossibilité, de la petitesse et de tes failles et de tes échecs et de tes déceptions. Sans la repentance, il n'y a pas de résurrection. Mais manquez pas ceci, sans l'esprit de la résurrection, la repentance ne te transformera pas. Et c'est ce que plusieurs ont manqué. C'est ce que plusieurs doivent. C'est comme ça qu'on doit entrer dans 2019 avec cette conviction que c'est seulement alors que je viens avec repentance devant Dieu qu'il peut transformer. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de mon Nazareth? Oui, tu viens avec repentance, mais tu viens aussi comme jamais dans ta vie avec une recherche de la puissance du Saint-Esprit, une recherche de l'Esprit de la résurrection. Jean-Baptiste dit, moi je vous annonce seulement ce qu'il va faire. Moi je vous annonce le baptême d'eau et de repentance, mais il y en a un qui vient après moi, Jésus, et il va te remplir, il va te baptiser, il va te submerger d'un esprit plus grand, plus puissant que le tien, qui te rend capable d'être ce que tu ne serais pas autrement. En 2019, il y a besoin de monter de ce lieu le cri de toutes les générations d'hommes et de femmes qui vont dire, Seigneur, je viens non seulement avec repentance, mais sans la puissance de la résurrection, la repentance devient un remords. J'ai de la peine pour ce que j'ai fait, j'ai de la peine pour le mal que j'ai fait, mais je m'enlise dedans, je suis toujours pareil. Par mes propres forces, je ne peux pas y arriver, mais je déclare que si je marche dans la repentance, si je marche avec une recherche comme jamais, la résurrection dans mes pensées, dans mon cœur, pour briser des habitudes, pour briser des patterns, pour briser des actions, pour réparer, pour relever, pour restaurer, qu'à chaque jour, à l'endroit de ta repentance, la résurrection va venir, l'Esprit va venir, le baptiseau va venir, et quel que soit le Nazareth, l'Esprit de Dieu va te dire, marcher en 2019, c'est la conviction que quel que soit mon Nazareth, oui, quelque chose de bon peut en sortir. Dieu transforme le deuil en allégresse, il transforme les vallées en témoignage, il transforme les tempêtes, je vais me repentir, il va me remplir de la résurrection, il va changer mon Nazareth en 2019. Je vais le suivre parce que c'est pas important d'où je viens, ce qui est important, c'est ce que je vais devenir en lui. Par la puissance de la résurrection. Est-ce que vous avez cette conviction avec moi? C'est pas une blague pour moi, c'est pas un cliché, c'est pas un speech pour moi. C'est pas important d'où tu viens. Ce qui est important, c'est ce que tu deviens. C'est pas important d'où tu sors. Ce qui est important, c'est qui tu suis. Est-ce que quelque chose de bon peut vraiment sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir du quartier Saint-Michel à Montréal? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'un garçon, troisième, quatrième génération, d'hommes violents et alcooliques, d'hommes qui font du mal à tout le monde, qui mentent, qui volent, qui sont adultères, qui sont menteurs, voleurs, méchants, violents? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cet appartement-là, sa 13e avenue à Saint-Michel? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'un ado qui grandit là-dedans? Et qui arrive à une église à l'âge de 17 ans et qui est devenu ce qu'il a haï et qui fait du mal à d'autres et se fait du mal à lui-même, qui ne voit rien pour lui-même puis personne ne voit rien en lui. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut sortir? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut sortir du Nazareth, de son passé tellement violent et son passé tellement sale et son passé tellement trouble et son passé tellement tordu? Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais, je faisais du bénévolat dans l'église où j'étais, et puis, alors j'ai 17 ans, puis Dieu avait commencé à faire des libérations extraordinaires dans ma vie, briser les liens de la toxicomanie, de l'alcool, de toutes sortes de choses. Il y avait toute une œuvre qui se faisait, puis je faisais de la conciergerie dans l'église le samedi, et lorsqu'il n'y avait personne dans l'église, dans la petite église où on était, lorsque j'ai fini mon ménage, je marchais dans l'église, puis je priais, puis un jour, alors que je marchais, puis que je priais, j'ai eu cette pensée, cette notion, ce désir, ce cœur comme si Dieu disait à mon cœur, tu vas parler pour moi. Tu vas être un prédicateur pour moi. Tu vas parler pour moi. Puis c'était quelque chose d'impensable, mais je pleurais, puis je priais, puis quelques semaines plus tard, ils ont annoncé qu'il y avait un institut biblique à Montréal. C'est pas l'ITF ou quoi que ce soit, mais il y avait un institut biblique à Montréal, on parle de 30 ans, et qui donnait un cours de prédication. Alors, je suis allé m'inscrire. Je me suis inscrit dans le cours, j'étais super enthousiaste, je prenais l'autobus à toutes les semaines pour aller là, je prenais des notes. À un moment donné, le professeur il a dit, vers la fin de la session, on va avoir, chaque élève va donner un message de 5 minutes. « Wow, ma première prédication, j'étais super excité. Je prépare tout mon message et puis ils réunissent tous les étudiants. Et puis là, moi, je donne mon message de tout mon cœur. Puis lorsque ça finit, c'est sûr que t'attends, tu regardes le prof, t'attends qu'est-ce qu'il va dire. Puis il dit rien. Et les autres élèves, ils avaient dit quelque chose publiquement. Moi, il dit rien du tout. Fait que j'étais comme, je sais pas qu'est-ce qu'il en a pensé vraiment. Mais bon, et puis tout à coup, à la fin, ça finit, puis on prend un café ensemble. On prend un café, les élèves, puis le prof, il me fait signe, viens 6 minutes. Puis là, je viens, puis là, il me dit, Claude Dieu. Et en passant, ça passe. Ce pasteur-là, il existe encore, il est encore vivant, que Dieu le bénisse, il existe. Il est là, je le connais, ça va bien. Mais j'étais assis avec lui, puis il me dit, écoute Claude, il dit, faut que tu comprennes. Il dit, il y a des gens qui, à cause de leur passé, comment tu parles, puis comment tu t'exprimes, puis le passé que tu as eu, puis ça s'apparaît dans comment tu es, puis toutes tes limitations. Puis, il était très diplomatique, mais il me dit, écoute, il y a des gens qui peuvent servir le Seigneur dans toutes sortes de sphères, mais toi, là, il me dit, si tu aimes le Seigneur, oublie ça, l'idée de parler en public. Oublie ça, il dit, tu peux pas. Il dit, il y a des gens qui sont pas, t'es pas capable, t'as pas les... Moi, j'étais démoli, il m'a éventré. J'étais démoli. Je vous ai dit qu'il était encore vivant, et j'étais démoli. Puis je m'en vais à mon église le dimanche, découragé, puis je demande à un diacre qui était là, j'ai dit, je peux parler 2 minutes, j'ai le cœur à l'envers, il m'est arrivé ça cette semaine, puis j'ai prêché tout mon cœur, puis le pasteur m'a dit que si t'aimes le Québec, si t'aimes le Seigneur, là, oublie ça, t'es pas fait pour toi, c'est impossible pour toi, et puis j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses, puis il dit, ouf, c'est sûr, il dit que tu viens de loin, mais il dit, dans l'Ancien Testament, Dieu, il dit, il a même utilisé un âne pour parler. Parole de vie. J'aimerais déclarer ce matin, c'est pas d'où tu viens, c'est avec qui tu m'as. Ce n'est pas d'où tu viens, c'est ce que tu deviens. Ce n'est pas d'où tu sors, c'est qui tu suis. Cette année, nous avons la conviction qu'il va transformer nos Jérusalem par sa grâce. Voulez-vous dire un grand amen de tous vos cœurs? Allez, allez, nouvelle vie! Le suivre dans une conviction, la dernière pensée ce matin, on va continuer ce soir, le suivre avec une compréhension de son cœur qui change tout. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, Marc chapitre 1, verset 10 et 11. La voix du ciel qui se fait entendre, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Remarquez bien, que Jésus n'a encore rien accompli. Il n'a rien accompli de son ministère encore. Lorsque le Père valide, approuve et dévoile son cœur, sa passion, son amour envers le Fils, son cœur d'affection et d'engagement absolu envers son Fils, Jésus n'a pas guéri un malade, Jésus n'a pas proclamé un message, Jésus n'a pas guéri un lépreux, Jésus n'a pas ouvert d'œil, n'a pas calmé de tempête, Jésus n'a pas donné un de ses enseignements, Jésus n'est pas allé à la croix, Jésus n'a rien fait encore pour mériter quoi que ce soit, Jésus n'a rien fait encore. Ce matin, as-tu besoin d'entendre que suivre Jésus, c'est croire que l'amour de Dieu pour vous, pour moi, pour toi, n'est jamais basé sur la performance. Il est basé sur la relation. Jésus n'avait rien fait. Voici mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé en lequel j'ai mis toute mon affection. Réalisez-vous comment cette vérité peut littéralement changer votre vision et conception de ce que ça veut dire de suivre Jésus. Jésus n'a rien fait encore. C'est comme si Dieu lui donne le trophée avant qu'il soit même allé à la première pratique et même pas joué un match encore. Parce que Dieu ne valide pas, ne donne pas, n'accorde pas, ne s'engage pas dans son amour de la même façon que les êtres humains le font. C'est pour ça que Dieu a dit à Samuel dans l'Ancien Testament, les dieux ne regardent pas comme les hommes regardent, ils regardent d'une manière complètement différente. Dieu, il y a deux moments dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, il va dire, c'est très, très personnel, il dit, il parle à Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Vous remarquerez dans Marc, chapitre 9, au moment de la transfiguration, il va l'annoncer au monde, il va dire aux disciples, voici mon fils bien-aimé. Écoutez-le, mais ne manquez pas ceci. Il y a beaucoup de croyants, beaucoup d'entre nous, que nous savons qu'il est le Fils bien-aimé, qu'il est le Fils de Dieu, et nous l'annonçons au monde. Nous disons au monde, voici Jésus est le Fils bien-aimé, écoutez-le, alors que nous ne croyons pas pour nous-mêmes qu'il nous parle dans Marc chapitre 1 personnellement. Et il dit à chaque fils, à chaque fille qui a donné sa vie au Seigneur, il dit à chacun, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, et mon amour pour toi est invariable, mon amour est insondable, mon amour, il est sans inconditionnel, il est sans limite, et il n'est pas basé, il ne repose pas sur ta performance, il repose sur la relation que nous avons. Tu es mon fils, tu es ma fille, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de mon passé. Je ne suis plus esclave de la performance. Je suis enfant de Dieu dans un monde de relations humaines conditionnelles où l'amour a été selon comment tu as performé. La voix de Dieu se fait entendre en ce début d'année pour te dire aujourd'hui, non, Dieu ne valide pas comme les hommes valident. Il n'a pas validé Jésus sur la base de ce que Jésus avait fait, mais sur qui il était. Il ne t'aime pas, il ne te dit pas ce matin, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, j'ai mis toute mon affection en toi sur la base de ce que tu n'as fait ou pas fait, mais sur la base de qui tu es en lui. C'est toute la théologie de la propitiation, c'est la théologie de la substitution. Dieu regarde à toi, il voit son fils, tu es en Christ. Lorsque Dieu a tourné la tête à la croix, parce que lorsqu'il a regardé à son fils sur la croix, tous tes péchés, les miens, mes erreurs, mes manquements, toutes les fautes, tout ce qui écroche, tout ce que tu voudrais cacher a été mis sur lui. Mais maintenant, alors qu'il est mort, ressuscité, et je suis en Christ, je suis enfant de Dieu. Lorsque Dieu me regarde, son approbation pour moi est entière, elle est totale. Il n'y a plus rien. Tu as besoin, ce matin, si vous suivez Jésus, et tu te sens indigne, tu te sens honteux, parce que tu peux pas dire ça. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais où j'ai failli comme père, je sais où j'ai failli comme mère, je sais où j'ai failli comme mari ou comme épouse, je sais où j'ai failli dans ma vie, je sais ce que j'ai fait. La voix de Dieu te dit, tu sais ce que tu as fait, est-ce que tu sais qui tu es? Mon amour ne dépend pas de ce que tu as fait ou pas fait. Mon amour dépend de qui tu es. Tu es mon fils, tu es ma fille. Suivre Jésus, c'est la conviction et la compréhension de son cœur pour moi. Rien ne pourra me séparer de son amour. C'est comme ça que je marche avec lui. Voulez-vous l'acclamer avec moi? L'apôtre Paul qui avait été dans son passé un meurtrier, qui avait été un persécuteur, un meurtrier. Toute sa vie, dans son humanité, ça le tourmentait, moi, le pire des pécheurs. J'ai persécuté, j'ai fait du mal. Mais avec cette révélation dans Romains, où littéralement, il explique qu'il est théologiquement impossible que des situations me séparent de l'amour de Dieu. Il est impossible que ce que je vis, de ce qui est arrivé hier, aujourd'hui ou demain, que ce soit ça qui fasse que l'amour de Dieu est arrêté. C'est impossible, il dira. Et c'est presque comme s'il lançait un défi. C'est comme s'il lançait un défi en nommant toutes sortes de situations. Il dit, dans Romains 8, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, là, qui sera contre nous? Qui va accuser les élus de Dieu? Moi, je m'accuse moi-même. D'autres m'accusent. Moi, je m'accuse. Non! C'est Dieu qui les justifie. Qui va les condamner? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il lance un défi. Quoi va nous séparer de l'amour de Christ? Là, il nomme un paquet de situations qui ne peuvent pas te séparer de l'amour de Christ. Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. les troubles que tu vis, c'est une situation, mais qui ne peut pas te séparer de Dieu. L'angoisse, la persécution, la nudité, l'épée. J'ai l'assurance, j'ai la conviction, j'ai la compréhension. Diapo 19 Romains, chapitre 8, 38, 39. J'ai la conviction, c'est comme ça que je vais suivre Jésus en 2019. J'ai la confiance, j'ai la compréhension que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, n'importe quoi du passé, n'importe quoi que je traverse, mais n'importe quoi de demain, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsque l'ennemi te dit, pense, est-ce que tu ne sais pas ce que tu as fait? Voici ce que tu as fait. Tu as besoin en 2019 d'apprendre à répondre. Voici qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis aimé. Je suis pardonné. Je suis racheté. Je suis protégé. Je suis libéré. Je suis relevé. Je suis transformé de jour en jour. Je suis mon nom écrit dans le livre de vie. Et je suis quelqu'un et rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de mon Père. Vous devriez dire amen. Cette réalité, cette compréhension change comment je vois mon passé. Change comment je vois mon pire, ce que j'ai fait de pire. Change comment je vois ma vie de prière. Change comment je vois entrer en sa présence. Change comment je peux pardonner d'autres personnes. Comment je peux aimer, si je suis appelé à aimer la même façon dont il m'a aimé. Change comment je peux commencer à prier Dieu et dire, Seigneur, il faut absolument que tu m'aides, il faut que tu m'aides. Je réalise que j'ai besoin d'aimer de façon un peu plus en 2019, comme toi, aimer d'une manière non conditionnelle, aimer d'une manière non dépendante de la performance. Aimer. Seigneur mon Dieu, aide-moi, remplis-moi de ton esprit. Alors que la voix de Dieu retentit et dit, tu es mon fils. Bien-aimé, tu es ma fille, bien-aimé. Si je pouvais le faire, je prie que l'Esprit de Dieu le fasse dans ton cœur ce matin. Je traverserai chaque rangée de cette église ce matin et chaque maison par milliers qui écoute ce message. Et j'irai dire ton nom, tu es mon fils bien-aimé. Carole, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je mets toute mon affection. Vous dites, ben non, parce que toi, tu ne comprends pas. Il a dit ça de Jésus. C'est bien sûr, Jésus était parfait. C'est son fils, c'est Jésus, c'est le parfait. Moi, ce n'est pas la même chose. Jésus dira dans Marc 17, « Si tu saisis ça, si tu reçois ça, ça change tout dans ta vie. Moi en eux et toi en moi. » Voici comment il prie. « Afin que nous soyons parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Wow! Tu es en train de dire, Père, que tu m'aimes comme tu aimes Jésus. Que quand ta voix dit, « Voici mon fils bien-aimé, en lequel j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé, en lequel j'ai mis toute mon affection. Tu dis, Claude, Chantal, Carole, Christine, votre nom. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis toute mon affection. Voici comment je veux le suivre en 2019. Ça change tout. Lorsque tu marches dans cette réalité-là, ça change tout. C'est une compréhension de son cœur qui change tout et m'appelle à le suivre. Dans le suivre, et ce soir, on va voir ensemble comment avec cette fondation d'amour, ne manquez pas ce soir, on entre dans le combat spirituel, mais comment je peux trouver le chemin de paix. Dans ce texte, il y a une révélation extraordinaire ce soir dans la présence de Dieu. Mais ce matin, alors que les musiciens s'approchent, je veux que nous rechantions, l'amour extravagant de Dieu. Alors que j'étais en préparation pour ce message, tellement de choses, toutes sortes de notes de préparation, tout ça. L'Esprit de Dieu me met sur mon cœur. Sois vrai. Sois authentique avec les gens. Il y a des gens qui sont là, qui ont besoin d'entendre que mon amour pour eux, ils ne pourront pas me suivre dans tout le reste que tu veux enseigner. S'ils ne reçoivent pas une révélation que l'amour est conditionnel. Ils ont vécu un divorce, ils ont vécu comme parents des échecs, ils ont vécu dans leur propre vie, ils ont des captivités qui restent, ils ont des choses qui font qu'ils marchent la tête spirituellement, leur tête est penchée, mais ma voix retentit, leur dit, « Hey, toi, là, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toute mon affection, rien ne va te séparer de mon amour, je vais marcher avec toi, je vais te changer, je vais te libérer, mon approbation de toi, mon affection de toi, mon engagement avec toi n'est pas conditionnel à ta performance, c'est notre relation, tu es mon fils, ma fille, mais l'Esprit de Dieu seulement peut le rendre réel à nos cœurs.
à nos spirituellement, surnaturellement, l'écrire sur nos cœurs. Je peux dire comme un prédicateur après des années qu'il est possible pour nous de proclamer, voici, il est le Fils de Dieu, écoutez-le. Mais de nous marcher avec un sens continuel d'insatisfaction envers nous-mêmes et un sens de, j'en fais pas assez, je ne suis pas assez.